Chapitre 11. Les trois corps, Motsi et le feu ardent. Avant de rentrer chez lui, Wang Miao s'arrêta en chemin dans un marché de produits électroniques pour faire l'achat d'une vieille combinaison. Son épouse l'informa que des collègues avaient tenté de le joindre toute la journée. Wang Miao alluma son téléphone resté éteint et constata qu'il avait reçu plusieurs appels de son centre de recherche. Il rappela en promettant qu'il serait vite sur pied et qu'il retournerait travailler le lendemain. Au repas, il suivit les conseils de Shi Qiang et but beaucoup de vin rouge, mais il ne trouva pas plus le sommeil. Une fois son épouse et son fils endormis, il s'assit devant son ordinateur, enfila sa vieille combinaison neuve et se connecta au jeu des trois corps. Il se retrouva sur la même plaine désertique baignée par les lueurs de l'aube. Il était devant la pyramide du roi Chu, mais l'immense couche de neige dont elle avait été recouverte avait disparu, et les pierres soutenant l'édifice portaient les marques de l'érosion du vent. Le sol avait changé de couleur. Au loin se dressaient de grands bâtiments qu'il imagina être des silos de déshydratation. Cependant, leur architecture n'était pas la même que lors de sa dernière connexion. Tout semblait indiquer qu'une longue période de temps s'était écoulée. Profitant de la lumière de l'aurore, Wang Miao chercha l'entrée de la pyramide. À l'emplacement où celle-ci se trouvait auparavant, il vit que le passage était condamné par un grand bloc de pierre. Mais à côté avait été sculpté un long escalier qui menait jusqu'au point culminant de la pyramide. Il leva les yeux et remarqua que l'apex d'origine avait été aplani pour faire place à une plateforme. De pyramide égyptienne, le palais s'était transformé en pyramide aztèque. Wang Miao gravit l'escalier de pierre et atteignit le sommet. Il y vit comme une sorte d'ancien observatoire astronomique. Dans un coin de la plateforme se dressait un télescope de plusieurs mètres de hauteur et, à côté de lui, plusieurs autres modèles, plus petits. De l'autre côté de la plateforme, il remarqua des instruments étranges qui lui rappelèrent les sphères armillaires de la Chine ancienne. Mais ce qui capta le plus son attention était une grande boule en cuivre située au centre de la plateforme. D'un diamètre de 2 mètres environ, elle était installée sur un ensemble sophistiqué de rouages de différentes tailles qui la faisaient tourner lentement. Wang Miao s'aperçut que son sens et sa vitesse de rotation étaient sans cesse changeants. Sous la machine se trouvait une fosse carrée dans laquelle Wang Miao aperçut à la lueur blafarde des torches des hommes, certainement des esclaves, en train de pousser une grande roue fournissant de l'énergie au mécanisme du dessus. Un homme approcha. Comme lors de sa première rencontre avec le roi Wen, celui-ci tournait le dos à la lumière du soleil, et Wang Miao eut l'impression de voir 2 yeux scintillants flotter au milieu de l'obscurité. Il était grand, maigre et portait une large robe noire. Ses longs cheveux étaient négligemment noués au sommet de son crâne et de nombreuses mèches volaient au vent. « Bonjour, » dit l'homme. « Je me présente, Motsi. Bonjour, je suis... Aizhen. Ah, mais je te connais, dit Motsi en pointant Wang Miao du doigt. Tu as été le compagnon du roi Wen des Chu durant la civilisation numéro 137. C'est effectivement avec lui que je suis arrivé jusqu'ici, mais je n'avais pas foi dans sa théorie. Et tu avais raison, reprit Motsi en opinant gravement de la tête. Puis il s'approcha et lui dit à voix basse. Durant les 362 000 années qui se sont écoulées après ton départ, nous avons ressuscité à 4 reprises. Les civilisations ont essayé de prospérer tant bien que mal, au gré des alternances erratiques entre ère chaotique et ère régulière. La plus courte a disparu à mi-chemin de l'âge de pierre, mais la civilisation numéro 139 a battu un record. Elle a atteint l'âge de la machine à vapeur. Vous voulez dire que, dans cette civilisation, quelqu'un est parvenu à comprendre les lois qui régissent les mouvements du soleil ? Motsi partit d'un grand rire en secouant la tête. Non, non, c'était juste un coup de chance. Mais les gens ont continué de chercher, n'est-ce pas? Bien sûr. Approchez, je vais vous montrer les efforts menés durant la dernière civilisation. Mozi conduisit Wang Miao dans un coin de l'observatoire astronomique. La Terre s'étendait sous leurs pieds comme un vieux morceau de cuir usé. Mozi se saisit d'un petit télescope et le braqua sur le sol, puis il le tendit à Wang Miao. Ce dernier plaqua son œil sur l'oculaire du télescope et vit une scène très étrange. Un squelette blanc comme la neige, dont l'élégance était perceptible, faiblement éclairé par la clarté de l'aube. Le plus étonnant était que ce squelette se tenait debout. Sa posture semblait noble et distinguée. Une de ses mains soutenait sa mâchoire, comme s'il caressait une barbe qui n'existait plus. Sa tête était inclinée vers le haut, comme s'il voulait interroger le ciel. « Confucius, » expliqua Mozi. Il était persuadé que tout était lié au rite et que rien dans l'univers n'échappait à cette règle. Il a donc créé un système de rites pour l'univers en espérant pouvoir prédire le fonctionnement du soleil. Je peux deviner le résultat. En effet, il avait la certitude que le soleil s'accorderait au rite et a prédit une ère régulière qui durerait 5 ans sans interruption. Nul besoin de le dire, cette prédiction s'est révélée inexacte. L'ère régulière n'a réellement duré qu'un mois. Puis le soleil ne s'est plus levé? Oh, si, le soleil s'est levé. Puis il est monté au milieu du ciel et il s'est soudain éteint.
Comment? Éteint?
Oui. Il a commencé par s'obscurcir peu à peu, par diminuer de volume, puis tout d'un coup il s'est éteint. La nuit est tombée et le froid. Un froid terrible qui a congelé Confucius sur place. Il est ici depuis ce jour. Et puis plus rien, je veux dire après l'extinction du soleil. Une étoile volante est apparue à son emplacement, comme l'âme du soleil mort. Êtes-vous sûr que le soleil s'est éteint et qu'une étoile volante a soudain pris sa place?
Oui, certain, il s'est éteint, puis l'étoile volante est apparue. Vous pouvez vérifier dans les annales, c'est ce qui est écrit, pas de doute.
Oh ! Wang Miao médita longuement. Il avait échafaudé quelques hypothèses un peu vagues sur le mystère du monde des trois corps. Mais les révélations de Mozi venaient de les faire s'écrouler. « Pourquoi soudain ? » grommela-t-il, contrarié.
« Nous sommes maintenant dans la dynastie des Han, mais je ne sais pas vraiment si c'est celle des Han de l'Est ou de l'Ouest. »«
Et vous avez pu survivre jusqu'à aujourd'hui ?»«
J'ai une mission. Prédire avec exactitude le mécanisme du soleil. Les sorciers, les métaphysiciens et autres prêtres taoïstes qui se sont succédés avant moi étaient des bons à rien, des incapables, tout juste bons à imaginer des fantaisies mystiques. » mais sans aucune connaissance pratique et sans volonté de mener des expériences. Mais c'est désormais mon tour, et j'agis différemment. Je suis capable de mener de véritables expériences, dit-il fièrement en désignant les instruments sur la plateforme.
Ces objets vous aideront-ils à réussir votre mission? Demanda Wang Miao en désignant non seulement les instruments, mais surtout la mystérieuse boule en cuivre.
J'ai moi aussi ma théorie, mais elle n'est pas d'inspiration mystique. Elle est le produit d'un grand nombre d'observations. Tout d'abord, savez-vous ce qu'est l'univers? C'est une machine.
Ça ne m'en dit pas plus.
Laissez-moi vous l'expliquer en termes plus concrets. L'univers est une grande sphère creuse suspendue au-dessus d'un océan de flammes. La surface de cette sphère est recouverte de petits trous et d'un trou de plus grande taille. La lumière émise par l'océan de flammes passe par ces trous. Les petits trous sont les étoiles et le grand, c'est le soleil.
C'est un modèle très intéressant, déclara Wang Miao en regardant la grosse boule en cuivre. Il pensait à présent avoir compris ce qu'elle représentait.
Mais votre théorie comporte une lacune. Quand le soleil se lève ou se couche, nous pouvons voir que le mouvement du soleil n'est pas synchrone avec celui des étoiles. Or, dans votre modèle, les trous sur la sphère restent fixes dans leurs positions respectives. Excellente remarque. C'est pourquoi j'ai revu mon modèle. La sphère de l'univers est en réalité composée de deux sphères, l'une enchâssée dans l'autre. Le ciel que nous pouvons voir est la sphère intérieure. Elle est recouverte de petits trous, tandis que le grand trou se trouve sur la sphère extérieure. La lumière qui filtre par le grand trou de la sphère extérieure est reflétée et disséminée dans l'espace intermédiaire entre les deux sphères. Puis, à son tour, cette lumière perce à travers les petits trous de la sphère intérieure, et c'est pourquoi nous voyons des étoiles.
Et le soleil ?
Le soleil est cette immense tache lumineuse projetée depuis le trou de la sphère extérieure sur la sphère intérieure. Cette projection est si lumineuse qu'elle parvient à pénétrer à travers la sphère intérieure comme à travers une coquille d'œuf. Voilà pourquoi nous voyons le soleil. Les rayons disséminés dans l'espace intermédiaire autour de cette tache de lumière sont eux aussi très lumineux et traversent la coquille. Voilà comment nous pouvons y voir clair le jour.
Mais selon vous, quelle force contraint les deux sphères à effectuer des mouvements irréguliers ?
Celle de l'océan de flammes situé hors de l'univers. Pourtant, la taille du soleil et sa luminosité varient selon les périodes. Dans votre modèle à double sphère, celles-ci doivent être constantes. Quand bien même les flammes seraient-elles irrégulières, la taille du trou, elle, ne change pas.
Ce modèle est loin d'être aussi simpliste que vous le pensez.
La taille des sphères augmente ou diminue au gré des variations de l'océan de flammes, d'où les changements de taille et de luminosité du soleil.
Et les étoiles volantes ?
Les étoiles volantes ? Mais qu'avez-vous donc avec ces étoiles volantes ? Ce sont juste des poussières soulevées par hasard quelque part entre les deux sphères de l'univers, rien de plus.
Non, il me semble que les étoiles volantes sont au contraire très importantes. Par ailleurs, comment votre modèle explique-t-il la soudaine extinction du soleil en plein ciel, à l'époque de Confucius ?
C'est une exception rare. C'est certainement une tache noire ou un nuage sombre issu de l'océan de flammes qui est passé juste derrière la sphère extérieure.
Wang Miao pointa la grosse boule en cuivre.
C'est certainement votre modèle.
Oui, j'ai créé cette machine qui reproduit le mécanisme de l'univers. Admirez plutôt cet ensemble complexe de rouages qui fait tourner la boule. Il simule les forces provenant de l'océan de flammes. Ces forces sont déterminées par la répartition des flammes dans l'océan extérieur et des courants qui le traversent. C'est une conclusion à laquelle je suis arrivé après plusieurs siècles d'observation.
Cette boule peut-elle aussi s'agrandir et rétrécir ?
Bien sûr. Actuellement, elle est précisément en train de rétrécir.
Wang Miao prit la balustrade de la plateforme comme point de repère fixe et sonda attentivement la boule.
Mo Tsi disait vrai.
Il y a donc aussi une sphère à l'intérieur ?
Évidemment. Les mouvements des deux sphères sont engendrés par des mécanismes sophistiqués.
C'est une machine très ingénieuse, admira Wang Miao avec sincérité.
Mais je ne vois pas de grands trous sur la surface de la sphère extérieure pour projeter la lumière à l'intérieur.
Il n'y a pas de trous. Sur la paroi intérieure de la sphère extérieure, j'ai installé une source de lumière pour simuler le grand trou. C'est une texture fluorescente fabriquée à partir d'extraits de centaines de milliers de lucioles. Elle produit une lumière froide, car le plâtre translucide utilisé pour faire la coque intérieure n'a pas une très bonne conductivité thermique. J'évite ainsi le risque d'une accumulation de chaleur dans la sphère qu'impliquerait l'utilisation d'une source de lumière chaude. De cette manière, le scribe peut demeurer à l'intérieur une longue période de temps.
Il y a donc quelqu'un dans la boule ?
Bien sûr ! Le scribe est installé debout sur le rayon d'une roue située dans la partie inférieure du mécanisme. Cette position lui permet de se maintenir au centre de la sphère. Lorsque nous serons parvenus à faire correspondre notre modèle d'univers avec l'univers réel, les mouvements de la boule que j'ai conçue nous permettront de prédire le futur de l'univers et donc, bien entendu, les mouvements à venir du soleil.
Le scribe notera tous les mouvements solaires et nous permettra de réaliser un calendrier extrêmement précis. Vous avez devant vous le rêve de centaines de civilisations passées. Vous arrivez au bon moment. Mon modèle d'univers vient tout juste d'indiquer qu'une ère régulière de 4 ans est sur le point de commencer. Suivant ma prédiction, l'empereur Wu des Han vient de donner l'ordre de réhydrater l'Empire. Attendons ensemble que le soleil se lève.
Mozi fit apparaître l'interface sur l'écran et accéléra quelque peu le temps du jeu. Un soleil rouge apparut à l'horizon. Les lacs et les étangs glacés constellant la plaine se mirent à fondre. La surface des lacs était jusqu'alors recouverte d'une épaisse couche de poussière qui les faisait se confondre avec la terre, mais à présent, ils devenaient peu à peu des miroirs cristallins, comme si la terre avait ouvert une myriade d'yeux. De la hauteur où ils se trouvaient, Wang Miao ne distinguait pas les détails du processus de réhydratation. Mais il pouvait voir un nombre croissant d'individus au bord des lacs, comme des colonnes de fourmis sortant de leurs fourmilières aux premières chaleurs du printemps. Le monde ressuscitait une nouvelle fois.
« Ne voudriez-vous pas descendre et participer à cette fabuleuse renaissance ? Les femmes qui viennent de ressusciter sont celles qui désirent le plus ardemment l'amour, » dit Mozi en désignant à Wang Miao cette terre en train de reprendre vie.
« Il ne vous sert à rien de rester ici. Le jeu est terminé. Je suis le vainqueur. »«
Votre machine de simulation de l'univers est ingénieuse, c'est indéniable. Mais quant à ces prédictions... »«
Oh, j'y pense. Pourrais-je utiliser votre télescope un instant ?»«
Je vous en prie, » dit Mozi en faisant un geste vers le grand télescope.
Wang Miao s'en approcha, mais il s'arrêta aussitôt.
« Comment l'utiliser pour observer le soleil ?»
Mozi sortit un disque de verre noir d'un étui en bois.
« Utilisez ce filtre en verre fumé, » dit-il en insérant l'objectif devant l'oculaire du télescope.
Wang Miao pointa le télescope vers le soleil, qui était déjà plus haut que la moitié du ciel. Il ne put s'empêcher d'éprouver un sentiment d'admiration devant l'imagination de Mozi. Le soleil avait effectivement l'air d'un trou immense où venaient rouler les innombrables vagues d'un océan de feu. Une infime partie d'une entité bien plus grande. Mais après un examen plus détaillé, il remarqua que ce soleil était différent du soleil de la réalité. Celui-ci semblait posséder un petit noyau en son centre. Si on imaginait ce soleil comme un œil, le noyau correspondait à sa pupille. Le noyau n'était pas large, mais il était si lumineux et si dense que les couches qui l'entouraient paraissaient presque immatérielles, erratiques et gazeuses. Le fait qu'il puisse voir le noyau à travers les couches externes du soleil semblait indiquer que les couches étaient transparentes ou translucides et que la lumière qu'elles diffusaient n'était peut-être finalement que la lumière disséminée du noyau. Wang Miao fut stupéfait du réalisme frappant de l'image du soleil. Une nouvelle fois, il eut la confirmation que les concepteurs du jeu avaient intentionnellement dissimulé derrière des images en apparence simplistes une énorme quantité de détails qui n'attendaient que d'être découverts par les joueurs. Wang Miao se redressa puis réfléchit au sens de cette structure cachée du soleil. Cela excitait son imagination. La vitesse du soleil avait augmenté. Il avait déjà atteint l'ouest du ciel. Wang Miao ajusta le télescope pour l'observer et le suivit jusqu'à ce qu'il passe sous la ligne d'horizon. La nuit venue, les flammes des feux de camp reflétèrent le ciel rempli d'étoiles. Wang Miao ôta le filtre du télescope et continua à observer les cieux. Il se concentra sur les étoiles volantes et, très vite, il parvint à en trouver 2. Mais il n'eut le temps d'examiner que l'une d'entre elles car le soleil se leva à nouveau. Wang Miao replaça le filtre sur l'oculaire. Il prolongea cette observation astronomique pendant plus de 10 jours, jouissant du plaisir de la découverte. En réalité, la vitesse accélérée du jeu était propice à ce type d'observation, les mouvements des corps célestes apparaissant ainsi de façon plus manifeste. Le 17e jour après le début de l'ère régulière, L'heure du lever du soleil avait déjà été dépassée de 5 heures. Or, la Terre était toujours enveloppée par le voile de la nuit. Une marée de sujets s'était rassemblée au pied de la pyramide, brandissant d'innombrables torches vacillant dans le vent glacial. Le soleil ne se lèvera peut-être pas, comme lors de la chute de la civilisation numéro 137, dit Wang Miao à un Mozi en train de consulter son calendrier astronomique. Mozi caressa sa barbe et arbora un sourire confiant. « Ne craignez rien, le soleil va bientôt se lever et l'ère régulière va continuer. Je connais les principes de fonctionnement de mon modèle d'univers. Mes prédictions ne peuvent être fausses. » Et c'est alors que, comme si elle avait voulu donner raison à Mozi, la lueur du jour apparut à l'horizon. Elle fut accueillie par une explosion de cris de joie de la foule qui s'était amassée au pied de la pyramide. À une vitesse inouïe, la lumière argentée du levant laissa place à un éclat intense, comme si le soleil voulait rattraper le temps perdu. Bientôt, la clarté de l'aube emplit la moitié du ciel, et bien que le soleil ne soit toujours pas sorti, il faisait sur la terre aussi clair qu'en plein jour. Wang Miao regarda dans la direction de la source lumineuse et il remarqua qu'une clarté éblouissante émergeait de l'horizon. La ligne de l'horizon se courba comme un arc parfait allant d'un point à l'autre du champ de vision. Wang Miao comprit bientôt que ce n'était pas l'horizon, mais les confins du soleil. Un soleil gigantesque en train de se lever. Une fois que ses yeux se furent habitués à la luminosité, la ligne d'horizon réapparut là où elle n'avait jamais cessé de se trouver. Wang Miao vit s'élever des colonnes de fumée noire qui contrastaient de façon saisissante avec la lumière propagée par le disque solaire. Ces nuages avaient été occasionnés par des feux ayant pris dans le lointain. Un cheval galopa jusqu'au pied de la pyramide depuis la direction où se levait le soleil en soulevant une poussière telle qu'il laissa une traînée blanche derrière lui. La foule lui ouvrit la route et Wang Miao entendit le cavalier s'époumoner « Déshydraté ! Déshydraté !» Le cavalier était suivi d'un troupeau de vaches et de chevaux, ainsi que d'autres animaux dont les corps en feu firent penser à un gigantesque tapis brodé de flammes glissant sur le sol. La moitié seulement de l'immense soleil avait émergé de la ligne de l'horizon, mais il occupait déjà la plus grande partie du ciel. La terre paraissait s'affaisser lentement le long d'une énorme et éblouissante muraille. Wang Miao pouvait maintenant voir en détail la surface du soleil. Des vagues et des tourbillons se déchaînaient au milieu d'un océan de flammes, des taches solaires planaient comme des fantômes errant le long de routes incertaines, et des couronnes solaires retroussaient paresseusement leurs longues manches d'or. Sur Terre, les hommes déjà déshydratés comme ceux qui ne l'étaient pas encore s'embrasèrent comme des allumettes jetées dans une fournaise. Ils furent consumés par des flammes d'une intensité plus grande encore que celle du charbon brûlant, mais ils s'éteignirent rapidement. Le gigantesque soleil continua sa rapide progression et le ciel fut presque entièrement recouvert lorsqu'il atteignit son zénith. Wang Miao leva la tête. Un bouleversement extraordinaire s'était produit. Ce qu'il voyait jusqu'alors au-dessous de lui était passé au-dessus. La surface du soleil était devenue une terre incandescente. Il eut la sensation de chuter dans cet enfer flamboyant. Sur la terre, les lacs commencèrent à s'évaporer. Des nuages de vapeur blanche de la forme de champignons nucléaires s'élevèrent avant de se disperser en recouvrant les amas de cendres humaines bordant les lacs. L'air régulière va continuer. L'univers est une machine. J'ai créé cette machine. L'air régulière va continuer. L'univers est... Wang Miao tourna la tête. La voix était celle de Mozi, qui était en train de prendre feu. Son corps se retrouva prisonnier d'une longue colonne de feu orangé. Sa peau était déjà ridée et carbonisée, mais ses yeux émettaient encore une lueur différente de celle des flammes en train de l'engloutir. Ses mains, déjà changées en tiges de carbone brûlante, serraient encore un fragment de soie grise dont les cendres papillonnaient au vent. Les restes du premier calendrier astronomique. Wang Miao brûlait lui aussi. Il leva ses mains et vit deux torches enflammées. Le gigantesque soleil se déplaça rapidement vers l'ouest, laissant à nouveau voir le ciel qu'il avait jusque-là dissimulé. Bientôt, il s'immergea derrière l'horizon,
et la terre parut remonter le long de la muraille de feu. Les rayons étincelants du crépuscule disparurent alors, et la nuit, telle une toile noire tirée par des mains de géants, enveloppa le monde devenu cendre. La terre émit un halo rouge sombre comme une braise de charbon tout juste sortie d'un four. Pendant un bref instant, Wang Miao put voir quelques étoiles, mais très vite, la vapeur d'eau et la brume envahirent le ciel et recouvrirent la terre rutilante. Le monde fut englouti par les ténèbres du chaos. Un texte en caractère rouge s'afficha sur l'écran. La civilisation numéro 141 a été détruite par les flammes. Elle avait atteint la période des Han de l'Est. Mais les graines de la civilisation ont survécu et une nouvelle civilisation germera des ruines du monde si imprévisible des trois corps. Nous vous invitons à vous reconnecter dans le futur. Wang Biao ôta sa V-combinaison. Après avoir peu à peu repris ses esprits, il eut une nouvelle fois le sentiment que, sous ses prétentions de fiction, le jeu des trois corps faisait preuve d'un profond réalisme et qu'à l'inverse, c'était le monde réel devant ses yeux qui lui apparaissait comme la peinture « Le jour de Kim Ming au bord de la rivière ». Complexe en surface, mais si simple en vérité. Le lendemain, Wang Miao retourna travailler au centre de recherche en nanotechnologie. En dehors de quelques problèmes mineurs dus à son absence de la veille, tout était en parfait état de marche. Il se rendit compte qu'une fois qu'il était absorbé par le travail, celui-ci lui faisait l'effet d'un anesthésique et ses cauchemars le laissaient provisoirement tranquille. Il s'efforça de s'occuper la journée entière et ne quitta le laboratoire qu'une fois la nuit tombée. Dès qu'il eut passé le hall d'entrée du centre, Wang Miao se retrouva avec la sensation d'être à nouveau pourchassé par ses démons. Il avait l'impression que le ciel étoilé était surmonté d'une loupe et qu'il était un insecte nu sous la lentille de cette loupe, dans l'incapacité de lui échapper. Il devait absolument trouver quelque chose à faire et il se dit qu'il pourrait aller rendre visite à la mère de Yangdong. Il conduisit donc jusqu'à son domicile. Yuanji était seule. Lorsque Wang Miao entra chez elle, elle était en train de lire sur son canapé. Il s'aperçut qu'elle était à la fois myope et presbyte et qu'elle avait dû changer de lunettes pour lire. Elle fut ravie de voir Wang Miao et fit remarquer qu'il avait bien meilleure mine que la dernière fois. « Grâce à votre ginseng !» sourit Wang Miao. La mère de Yangdong secoua la tête. « Celui que je t'ai donné n'était pas de très bonne qualité. À l'époque, je ramassais de l'excellent ginseng de montagne aux alentours de la base. Un jour, j'ai trouvé une racine grande comme ça. Je ne sais pas comment c'est maintenant là-bas. J'ai entendu dire que c'était désert. Ah, je vieillis. Ces derniers temps, je n'arrête pas de penser au passé. On m'a raconté que vous aviez subi beaucoup d'épreuves durant la révolution culturelle. C'est Rui Shan qui t'en a parlé. » Yuanji secoua les mains comme si elle voulait chasser une toile d'araignée devant ses yeux. « C'est du passé, tout est du passé. Hier soir, Rui Shan m'a appelé. Il avait l'air paniqué, je n'ai pas compris ce qu'il me racontait. J'ai seulement entendu qu'il t'était arrivé quelque chose. Ah, quand tu auras mon âge, tu comprendras que toutes ces choses que tu croyais importantes n'étaient en fait pas si extraordinaires. » « Merci, » dit Wang Miao. Il y avait bien longtemps qu'il n'avait pas été parcouru par une telle vague de chaleur. À présent, cette vieille femme qui avait enfin trouvé la paix après tant d'épreuves et l'ignorant le téméraire commissaire Shi Qiang étaient devenus les deux piliers qui empêchaient encore son esprit de tomber en ruine. Yuanji reprit. « En parlant de révolution culturelle, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Au moment où je pensais que j'allais mourir, j'ai trouvé un refuge où j'ai pu continuer à vivre.
Vous voulez parler de la base de Côte Rouge ?
Yuanji acquiesça.
C'était un projet extraordinaire, je croyais que ce n'était qu'une pure légende.
Ce n'est pas une légende. Si tu le souhaites, je peux te raconter ce que j'ai vécu.
Wang Miao se sentit un peu nerveux.
Professeur I, je suis simplement curieux, ne vous sentez pas forcé de m'en parler.
Oh, ce n'est rien. C'est une bonne occasion de papoter. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas vraiment parlé à quelqu'un.
Vous devriez participer aux activités d'un cercle du troisième âge. On se sent moins seul quand on est actif.
J'y trouverai peut-être de nombreux anciens collègues de l'université, mais je ne suis jamais arrivé à me fondre dans leur communauté. Tout le monde aime ressasser ses souvenirs, mais seulement dans l'espoir qu'on les écoutera. Les souvenirs des autres les agacent. Il n'y a que toi que cette histoire de côte rouge peut bien intéresser.
Mais n'est-ce pas dangereux pour vous de parler de cela maintenant?
C'est vrai. Après tout, le projet était confidentiel. Mais les langues se sont déliées après la publication de ce livre. C'est devenu un secret de Polichinelle. L'auteur a vraiment été irresponsable. Sans parler de ses intentions, beaucoup d'informations et de faits rapportés dans l'ouvrage sont faux. Je me dois au moins d'y apporter des corrections.
Et ainsi, Iwanji commença à raconter cette histoire encore vivace dans sa mémoire.